Chapitre 3. Erford. La nouvelle cour pour la Toussaint s'installa à Erford. Si, comme disait Adam Orleton, évêque de cette ville, chacun dans l'histoire connaît son heure de lumière, cette heure pour lui-même était arrivée. Au bout de surprenantes vicissitudes, après avoir fait évader l'un des premiers seigneurs du royaume, été traduit en jugement devant le Parlement et sauvé par la coalition de ses pairs, après avoir prêché et animé la rébellion, il revenait triomphant dans cet évêché auquel il avait été nommé en 1317 contre la volonté du roi Édouard et où il s'était comporté en grand prélat. Avec quelle joie cet homme petit, sans grâce physique mais courageux de corps et d'âme, ne parcourait-il pas, revêtu de ses insignes sacerdotaux, mitre en tête, crosse en main, les rues de sa cité retrouvée? Aussitôt que l'escorte royale eut pris possession du château situé au centre de la ville, dans une boucle de la rivière Wye, Orleton n'eut de cesse de montrer à la souveraine les œuvres de son entreprise, et d'abord la haute tour carrée, à deux étages ajourés d'immenses ogives, chaque angle terminé par trois clochetons, deux petits en arête et un grand les dominant, 12 flèches en tout montant vers le ciel, et qu'il avait fait élever pour embellir et magnifier la cathédrale. La lumière de novembre jouait sur les briques roses dont l'humidité gardait fraîche la couleur. Autour du monument s'étendait une vaste pelouse, sombre et bien tondue. « N'est-ce pas, madame, la plus belle tour de votre royaume ?» disait Adam Orleton avec l'orgueil naïf du bâtisseur devant cette construction ciselée, point trop chargée, pure de lignes, et dont il ne cessait de s'émerveiller. « Ne serait-ce que pour avoir édifié ceci, je serais content d'avoir vécu. » Orleton tenait sa noblesse d'Oxford, comme on disait, et non du blason. Il en était conscient et avait voulu justifier les hautes situations auxquelles l'ambition, autant que l'intelligence et le savoir plus encore que l'intrigue, l'avaient conduit. Il se savait supérieur à tous les hommes qui l'entouraient. Il avait réorganisé la bibliothèque de la cathédrale. Une librairie où les gros volumes, rangés la tranche en avant, étaient tenus aux planches par des chaînes à longs maillons forgés afin qu'on ne pût les dérober. Près de 1000 manuscrits enluminés, décorés, merveilleux, rassemblant 5 siècles de pensées, de foi et d'invention, depuis la première traduction des évangiles en saxon, avec certaines pages encore décorées de caractères runiques, jusqu'aux dictionnaires latins les plus récents, en passant par la hiérarchie céleste, les œuvres de saint Jérôme, de saint Jean Chrysostome, les 12 prophètes mineurs. La reine eut encore à admirer les travaux entrepris pour la salle du chapitre, ainsi que la fameuse carte du monde peinte par Richard de Bello, et qui ne pouvait être que d'inspiration divine, car elle commençait à faire des miracles. Erford fut ainsi, près d'un mois, la capitale improvisée de l'Angleterre. Mortimer n'y était pas moins heureux qu'Orleton, puisqu'il venait de reprendre possession de son château de Wigmore, distant de quelques milles. On continuait pendant ce temps de rechercher le roi. Un certain Rhys ap Owain, chevalier du pays de Galles, vint un jour annoncer qu'Édouard II était caché dans une abbaye, sur les côtes du comté de Glamorgan, où le bateau avec lequel il espérait gagner l'Irlande avait été jeté par les vents contraires. Aussitôt, Jean de Hainaut, genou en terre, s'offrit à aller forcer dans son repaire de Galles le déloyal époux de Madame Isabelle. On eut quelque peine à lui faire entendre qu'il serait peu convenable de confier la capture du roi à un étranger, et qu'un membre de la famille royale se trouvait mieux désigné pour accomplir cette pénible besogne. Ce fut Henri Torcol qui, sans joie excessive, eut à se mettre en selle pour aller, accompagné du comte de la Zouche et de Rhys ap Owain, battre la côte de l'Ouest. À peu près dans le même temps, le comte de Charlton arriva du Shropshire, ramenant le comte d'Arundel enchaîné. Pour le lord de Wigmore, ce fut là une éclatante revanche, car Edmond Fitzalan, comte d'Arundel, avait reçu du roi une importante partie des biens saisis à la famille Mortimer, et s'était fait conférer le titre de grand juge de Galles qui avait appartenu au vieux Mortimer de Turk. Roger se contenta de laisser Arundel debout devant lui tout un quart d'heure, sans lui adresser la parole, le regardant seulement des pieds à la tête et s'offrant la satisfaisante contemplation d'un ennemi vivant qui bientôt serait un ennemi mort. Le jugement d'Arundel, et sous les mêmes chefs d'accusation que ceux retenus contre le Despenser le Vieux, fut rapidement expédié, et la décapitation du comte donnée en réjouissance à la ville de Erford et aux troupes qui y stationnaient. On remarqua que pendant le supplice, la reine et Roger Mortimer se tenaient par la main. Le jeune prince Édouard avait eu ses 15 ans 3 jours plus tôt. Enfin, le 20 novembre, une insigne nouvelle arriva. Le roi Édouard avait été pris par le comte de Lancastre en l'abbaye cistercienne de Neath, dans la basse vallée de la Tao. Le roi, son favori, son chancelier, y vivait caché depuis plusieurs semaines sous des habits de moine. Édouard occupait son attente d'un sort meilleur en travaillant à la forge de l'abbaye, passe-temps qui lui distrayait l'esprit de trop penser. Il était là, torse nu, le froc descendu sur les reins, la poitrine et la barbe éclairées par le feu de la forge, les mains environnées d'étincelles, tandis que le chancelier tirait le soufflet et que Hugues le Jeune, d'un air lamentable, lui passait les outils, quand Henri Torcol s'encadra dans la porte, le haut incliné vers l'épaule, et dit
« Sire, mon cousin, voici le temps venu de payer pour vos fautes. »
Le roi laissa échapper le marteau qu'il tenait. La pièce de métal qu'il forgeait resta à rougeoyer sur l'enclume. Et le souverain d'Angleterre, son large torse pâle tout tremblant, demanda
« Cousin, cousin, que va-t-il advenir de moi ?»«
Ce que les barons et aux hommes du royaume en décideront, » répondit Torcol.
À présent, Édouard attendait, toujours avec son favori, toujours avec son chancelier, dans le petit manoir fortifié de Monmouth, à quelques lieues de Hereford, où Lancastre l'avait conduit et enfermé. Adam Orleton, accompagné de son archidiacre Thomas Chandos et du grand chambellan William Blount, s'en fut aussitôt à Monmouth pour réclamer les sceaux royaux que Baldock continuait de transporter. Édouard, quand Orleton eut exprimé sa requête, arracha de la ceinture de Baldock le sac de cuir qui contenait les sceaux, s'entoura le poignet des lacets du sac comme s'il voulait s'en faire une arme, et s'écria
« Messire traître, mauvais évêque, si vous voulez mon sceau, vous viendrez me le prendre par force et montrerez qu'un homme d'église a contraint son roi !»
Le destin avait décidément désigné Monseigneur Adam Orleton pour d'exceptionnelles tâches. Il n'est pas courant d'ôter à un roi les attributs de son pouvoir. Devant cet athlète furieux, Orleton, les épaules tombantes, les mains faibles, et n'ayant d'autre arme que sa canne à fragile crosse d'ivoire, répondit
« La remise se doit accomplir de par votre vouloir, et que les témoins en constatent. Sire Édouard, allez-vous obliger votre fils, qui est à présent mainteneur du royaume, à se commander son propre sceau de roi plutôt qu'il n'y comptait ? Par contrainte, toutefois, je puis faire saisir le Lord Chancelier et le Lord Despenser que j'ai ordre de conduire à la reine. »
À ces mots, Édouard cessa de s'inquiéter du sceau pour ne plus penser qu'à son favori bien-aimé. Il détacha de son poignet le sac de cuir, le jeta au chambellan William Blount comme si ce fût devenu soudain un objet négligeable, et ouvrant les bras à Hugues, s'écria
« Ah non, vous ne me l'arracherez point !»
Hugues le Jeune, amaigri, frissonnant, s'était jeté contre la poitrine du roi. Il claquait des dents, paraissait prêt à défaillir, et gémissait
« C'est ton épouse, tu vois qui veut cela. C'est elle, c'est cette louve française qui est cause de tout. Ah, Édouard, Édouard, pourquoi l'as-tu épousée ?»
Henri Torcol, Orleton, l'archidiacre Chandos et William Blount regardaient ces deux hommes embrassés, et si incompréhensible que leur fut le spectacle de cette passion, ils ne pouvaient s'empêcher d'y reconnaître quelque affreuse grandeur. À la fin, ce fut Torcol qui s'approcha, prit le Despenser par le bras, en disant
« Allons, il faut vous séparer. »
Et il l'entraîna.
« Adieu, Hugues, adieu !»
cria Édouard.
« Je ne te verrai plus, ma chère vie, ma belle âme. On m'aura donc tout pris. »
Les larmes roulaient dans sa barbe blonde. Hugues le Despenser fut confié aux chevaliers d'escorte qui commencèrent par le revêtir d'un capuchon de paysan en grosse bure, sur lequel ils peignirent par dérision les armoiries et emblèmes des comtés que lui avait donné le roi. Puis ils le hissèrent, les mains liées dans le dos, sur le plus petit et chétif cheval qu'ils trouvèrent, un bidet nain, maigre et bourru comme il en existe en campagne. Hugues avait des jambes très longues. Il était forcé de les replier ou bien de laisser traîner les pieds dans la boue. On le conduisit ainsi de ville en bourg, à travers tout le Monmouthshire et le Herefordshire, l'exposant sur les places pour que le peuple s'en divertît tout son sou. Les trompettes sonnaient devant le prisonnier, et un héros criait
« Voyez, bonnes gens, voyez le comte de Gloucester, le Lord Chambellan, voyez le mauvais homme qui a si fort nui au royaume !»
Le chancelier Robert de Baldoc fut convoyé plus discrètement vers l'évêché de Londres pour y être emprisonné, sa qualité d'archidiacre empêchant de requérir contre lui la peine de mort. Toute la haine se concentra donc sur Hugues de Spencer le Jeune. Son jugement fut rapidement instruit à Hereford. Sa condamnation n'était mise en discussion ni en doute par personne. Mais parce qu'on le tenait pour le premier fauteur de toutes les erreurs et de tous les malheurs dont avait souffert l'Angleterre, son supplice fut l'objet de raffinements particuliers. Le 24e jour de novembre, des tribunes furent dressées sur l'esplanade devant le château et une plateforme d'échafaud montée assez haut pour qu'un peuple nombreux pût assister sans en perdre aucun détail à l'exécution. La reine Isabelle prit place au premier rang de la plus grande tribune entre Roger Mortimer et le prince Édouard. Il brûlait. Les trompes et les buzines sonnèrent. Les aides-bourreaux amenèrent Hugues le Jeune, le dépouillèrent de ses vêtements. Quand son long corps, aux hanches saillantes, au torse un peu creux, apparut, blanc et totalement nu, entre les bourreaux rouges et au-dessus des piques des archers qui entouraient l'échafaud, un immense rire gras s'éleva de la foule. La reine Isabelle se pencha vers Mortimer et lui murmura « Je déplore qu'Édouard ne soit point présent à regarder. » Les yeux brillants, ses petites dents carnassières entr'ouvertes et les ongles plantés dans la paume de son amant, elle était bien attentive à ne rien perdre de sa vengeance. Le prince Édouard pensait « Est-ce donc là celui qui a tant plu à mon père ?» Il avait déjà assisté à deux supplices et savait qu'il tiendrait jusqu'au bout, sans vomir. Les buzines sonnèrent à nouveau. Hugues fut étendu et lié par les membres sur une croix de Saint-André, horizontale. Le bourreau affila lentement, sur une pierre d'affûtage, une lame aiguë, pareille à un couteau de boucher, et en éprouva le tranchant sous le pouce. La foule retenait son souffle. Puis un aide s'approcha, muni d'une tenaille dont il saisit le sexe du condamné. Une vague d'hystérie souleva l'assistance. Les pieds battants faisaient trembler les tribunes. Et malgré ce vacarme, on perçut le hurlement poussé par Hugues. Un seul cri déchirant et arrêté net, tandis qu'un flot de sang jaillissait devant lui. La même opération fut répétée pour les génitoires, mais sur un corps déjà inconscient. Et les tristes déchets jetés dans un fourneau plein de braises ardentes qu'un aide éventait. Il s'échappa une affreuse odeur de chair brûlée. Un héros, placé devant les sonneurs de buzine, annonça qu'il en était procédé de la sorte parce que le Despenser avait été sodomite et qu'il avait favorisé le roi en sodomie et pour ce, déchassé la reine de sa couche. Puis le bourreau, choisissant une lame plus épaisse et plus large, fendit la poitrine par le travers et le ventre dans la longueur, comme on aurait ouvert un porc. Les tenailles allèrent chercher le cœur presque encore battant et l'arrachèrent de sa cage pour le jeter également au brasier. Les buzines retentirent pour donner la parole au héros, lequel déclara que « le Despenser avait été faux de cœur et traître, et par ses traîtres conseils avait honni le royaume ». Les entrailles furent ensuite sorties du ventre, déroulées et secouées, toutes miroitantes, nacrées et présentées au public, parce que le Despenser s'était nourri du bien des grands comme du bien du pauvre peuple. Et les entrailles à leur tour se transformèrent en cette âcre fumée épaisse qui se mêlait à la bruine de novembre. Après quoi, la tête fut tranchée, non pas d'un coup d'épée, puisqu'elle pendait à la renverse entre les branches de la croix, mais détachée au couteau, parce que le Despenser avait fait décoller les plus grands barons d'Angleterre et que de son chef étaient sortis tous les mauvais conseils. La tête de Hugues le Despenser ne fut pas brûlée. Les bourreaux la rangèrent à part pour l'envoyer à Londres, où elle serait plantée à l'entrée du pont. Enfin, ce qui restait du corps fut débité en 4 morceaux. Un bras avec l'épaule, l'autre bras avec son épaule et le cou, les 2 jambes avec chacune la moitié du ventre, pour qu'il soit expédié aux 4 meilleures cités du royaume, après Londres. La foule descendit des tribunes, lasse, épuisée, libérée. On pensait avoir atteint les sommets de la cruauté. Après chaque exécution sur cette route sanglante, Mortimer avait trouvé la reine Isabelle plus ardente au plaisir. Mais cette nuit qui suivit la mort de Hugues le Jeune, les exigences qu'elle eut, la gratitude affolée qu'elle exprima, ne laissèrent pas d'inquiéter son amant. Pour avoir haï si fort l'homme qui lui avait pris Édouard, il fallait qu'elle eût jadis aimé celui-ci. Et dans l'âme ombrageuse de Mortimer, se forma un projet qu'il mènerait à son terme quelque temps que cela prît. Le lendemain, Henri Torcol, désigné comme gardien du roi, fut chargé de conduire celui-ci au château de Kenilworth et de l'y tenir enfermé sans que la reine l'eût revue.